Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à Radio Okapi qui vous accorde la parole. Plusieurs structures de la société civile plaident pour la mise en œuvre des recommandations des concertations nationales. Elles estiment que ces recommandations constituent la base sur laquelle le gouvernement devrait se focaliser pour résoudre les problèmes des populations congolaises. Nous en parlons aujourd'hui avec comme question principale: quel regard portez-vous sur l'effectivité de la mise en œuvre de ces recommandations? Nous en parlons donc et nous vous invitons à nous rejoindre à l'adresse pa@radiocapi.net et si vous vous les souhaitez, appelez-nous au 081 890 63 15. Nous disons merci à Pierrot et la Mégie qui assurent la réalisation de cette émission mise en onde par Héritier Sidiakala et coordonnée et présentée par J.R. Lungembo sous la supervision de Ben Kabamba. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs pour participer: 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous disons merci à la commission Justice et Paix et Sauvegarde de la création de l'Église du Christ au Congo qui, au fait, nous avait lancé un message pour demander à ce que nous puissions aborder cette thématique. Donc merci à Antoine Katende qui est le secrétaire exécutif. Alors la problématique, au fait, tout est parti de l'observation faite par cette commission, donc la commission Justice et Paix et Sauvegarde de la création de l'Église du Christ au Congo réalise un projet sur le suivi de la mise en œuvre des dites recommandations grâce à l'appui de son partenaire CAFOD. Alors la commission a par deux fois d'ailleurs adressé des correspondances officielles au présidium des concertations nationales constitué des honorables présidents des deux chambres du Parlement pour que les dites recommandations soient connues de tous les Congolais en les publiant sur les sites de la présidence, du gouvernement, de l'Assemblée nationale et du Sénat. Mais jusque-là, jusqu'à la date de ce jour, ces 679 recommandations ne sont pas accessibles aux internautes congolais. Les deux présidents n'ont pas répondu à la requête de la commission, qui au fait manifeste déjà leur grand étonnement. Alors récemment, la commission a appris qu'une liste de 100 recommandations dont la nature n'est pas connue ont été sélectionnées et transmises au chef de l'État. Alors la commission ne comprend pas pourquoi on tient à cacher en fait ces recommandations à la population et sollicite au travers de cette émission qu'on puisse quand même éclairer la lanterne de nos auditeurs. Nous avons invité pour ce faire Thomas Loaka, un des coordonnateurs qui a dirigé la thématique conflit communautaire, paix et réconciliation, et qui est aussi dans les comités de suivi. Il sera là d'un moment à l'autre. Nous allons commencer avec les auditeurs qui sont en ligne. Eddy est à Lubumbashi et Omar est à Kinshasa. Eddy, bonjour.
Bonjour Monsieur Gilles.
Eddy, vous avez la parole. Quel regard portez-vous sur l'effectivité de la mise en œuvre de recommandations des concertations nationales?
Bon, quand je jette un coup d'œil, parce que j'avais quand même suivi le déroulement des concertations, on avait fait la lecture des recommandations qui étaient importantes lors de la clôture de ces concertations. J'ai trouvé qu'il y avait là des recommandations qu'on pouvait réaliser à très court terme, d'autres à court terme, d'autres à moyen terme et d'autres même à long terme. Alors moi je pense qu'il n'est pas bien qu'on puisse nous lancer précipitamment dans la réalisation de ces recommandations qui demandent des préalables. Par exemple, la mise en place du gouvernement de cohésion. Ça demande à ce qu'il y ait des concertations au niveau de la famille politique du chef de l'État, au niveau de l'opposition, au niveau de la société civile. Alors, il faut qu'on donne le temps au temps pour qu'on fasse les choses de la bonne manière et non dans la précipitation. Maintenant, moi, j'ai bien voulu intervenir aujourd'hui, surtout pour insister sur les recensements. C'est l'une des recommandations des concertations. Je veux vraiment que nous ne puissions pas aller au troisième cycle électoral, c'est-à-dire élection présidentielle et députation nationale, sans qu'on puisse passer par le recensement. Nous voulons qu'il y ait recensement et que la direction ou l'unité ou l'institution qui aura à faire le recensement transmettra maintenant le nom de tous les Congolais qui ont plus de 18 ans à la CENI, et c'est ce Congolais-là qui vont constituer le corps électoral pour les élections prochaines. C'est sur cela que moi je voulais insister.
Voilà, et pour votre gouverne, parmi les 100 recommandations prioritaires retenues par le comité national de suivi des recommandations des concertations nationales, 16e recommandation retenue comme prioritaire également, c'est ce que vous venez d'évoquer dans votre préoccupation, c'est-à-dire organiser le recensement général de la population et de l'habitat, ainsi que des enquêtes lourdes en vue de disposer des statistiques fiables de développement du pays. Et l'institution concernée par rapport à ces mesures à prendre, c'est le gouvernement. Est-ce c'est le gouvernement qui est en place aujourd'hui ou c'est lui qui viendra après, donc le gouvernement de cohésion nationale? C'est cela la question. Eddy, merci d'avoir participé à ces débats. Nous allons prendre Omar qui est à Kinshasa. Omar, bonjour.
Bonjour JR et merci des verbes à Kofma DJ.
Vous avez la parole, Omar.
Merci beaucoup, JR. Je réitère mes félicitations au président qui avait initié cette concertation. Comme nous l'avons toujours dit, nous sommes africains. Et la tradition africaine voudrait que chaque fois qu'il y a un problème, que les Africains se mettent à table pour s'en discuter. C'est donc une très bonne idée que nous soutenons. Alors, pour revenir à la problématique de l'émission, à savoir quel regard nous portons, moi je suis optimiste, je suis d'avis ou de ceux qui pensent que lorsqu'on mettra en œuvre ces disposition prioritaire, on aura tant soit peu, n'est-ce pas, résorber les problèmes qui dérangent le Congo. Mais cependant, je pense, Monsieur JR, que la mise en œuvre effective de ces recommandations exige de préalables très importants sans lesquels on aboutira à aucun résultat escompté. Premièrement, je voudrais faire allusion à la volonté politique de ceux qui gouvernent. On reconnaît un nombre d'États par le respect de la parole donnée. Il ne suffit pas d'initier des programmes et ne pas les concrétiser. Là, j'interpelle alors le président ainsi que toutes les autorités de mettre en œuvre ce qu'ils ont voulu. Je fais aussi allusion aux acteurs politiques qui ont pris part à ces assises, notamment le MLC. Lorsqu'on prend part à une chose, on doit être en mesure d'en supporter les conséquences. Ce n'est pas bon qu'on prenne part à une assise et qu'on dise on n'est pas d'accord avec les différentes conclusions. Et je voudrais interpeller aussi la société civile qui puisse, n'est-ce pas, avoir sa volonté d'aider les gouvernements et autres acteurs à mettre en œuvre ces acteurs. Deuxièmement, la volonté d'agir ne suffit pas. Encore faut-il avoir la capacité d'organiser les choses. Beaucoup de programmes dans le monde échouent, pas parce que les programmes sont mauvais, mais parce que les animateurs de ces programmes ne sont pas bons. Je voudrais que ceux qui seront nommés dans les gouvernements de cohésion nationale, je voudrais que les autorités de la commission de suivi soient des gens capables de faire de bonnes choses. On fait là allusion à la technocratie, mettre des gens qu'il faut à la place qu'il faut. Sinon, ce sera juste un chapeau de bonnes intentions et on n'aura rien fait. Troisièmement, il faut qu'il y ait des moyens financiers. Parmi les recommandations prioritaires, vous avez cité le recensement, l'audit du fichier. Ça ne va pas se faire avec des papiers, c'est avec de l'argent. On ne peut pas demander aux gens d'avoir des vertus sans le minimum de bien-être, comme nous l'avons toujours dit. Il faudra en sus de la volonté, de la capacité, allouer des moyens à ces mécanismes de suivi au nouveau gouvernement de cohésion nationale pour qu'on puisse, n'est-ce pas, mettre en œuvre. Et pour finir, je voudrais faire allusion à l'unité. C'est également un préalable. Sans l'unité, JR, nous ne pouvons rien faire. Je l'ai toujours dit, l'unité des moutons dans un troupeau oblige les lions à dormir. Nous sommes confrontés à beaucoup de problèmes. Le jour où nous, Congolais, nous mettrons ensemble pour discuter, pour mettre des solutions ensemble, je crois qu'on aura, n'est-ce pas, atteint les utilités. Je ne demande pas d'avoir un seul parti politique. Chacun peut rester là où il est. Mais lorsqu'il s'agit d'une cause nationale, qu'on se mette ensemble.
Il faut qu'on se mette ensemble.
La réussite de ces pays ne dépend pas seulement de ceux qui gouvernent, mais encore moins de ceux qui sont de l'opposition, c'est tout celui qui s'est dit congolais.
Oui, mais Omar, s'il vous plaît, parce que il y a quand même certains observateurs qui ont évoqué quelques tentatives d'avancer dans la mise en œuvre effective de ces recommandations. Je crois que vous avez fait pratiquement la même observation aussi. Il y a quelques avancées, il y a déjà quelques signaux. Il y a déjà quelques signaux, notamment la mise en place, le vote et la promulgation de la loi d'amnistie, par exemple.
Oui. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que je suis optimiste, parce que moi, je n'aime pas naviguer dans les superflus. Déjà, la mise en place de la loi d'amnistie, la mise en place du comité des mécanismes de suivi, c'est déjà des signaux forts qui peuvent nous pousser à espérer qu'il y aura quand même des solutions. Mais nous ne voudrons pas que ça puisse se limiter à ce niveau. Il faudra qu'on pousse la balle très loin pour qu'on puisse aboutir à un résultat meilleur. Je suis d'avis qu'il y a des signaux forts qui témoignent déjà la bonne volonté de ceux qui vont gouverner, notamment parce que vous avez des lois d'amnistie, notamment par certaines grâces, notamment également par la mise en place du mécanisme de suivi. Mais cela ne suffit pas, ce n'est qu'une goutte d'eau dans la mer. Il faudra aller très loin en mettant des moyens, volonté, capacité, unité, pour qu'on puisse, n'est-ce pas, aboutir complètement à ces processus.
Voilà, merci beaucoup Omar de nous avoir proposé les quatre préalables sans lesquels donc les résultats ne seront pas escomptés. Et vous avez évoqué la volonté politique et également la technocratie que doivent faire montre les acteurs politiques et les moyens financiers qui doivent normalement suivre pour que finalement la mise en œuvre soit effective. Et en fin de compte, vous évoquez l'aspect unité. Il faudrait qu'on puisse mettre le différent des côtés pour au fait travailler dans le sens de la cohésion nationale. Merci beaucoup Omar d'avoir appelé de Kinshasa. Nous prenons Simon Ntiloulou qui est à Matadi. Simon, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous avez la parole, votre point de vue.
Oui, c'est Simon Ntiloulou, le secrétaire provincial des Sinecat Bas-Congo et affilié. En fait, la mise en œuvre des recommandations de la concertation nationale pour peut-être prétendre avoir une cohésion nationale, c'est quand même une bonne chose. Mais il faut révéler quelques craintes qui pouvaient se faire parce que il y a la majorité qui gère aujourd'hui, qui s'était présentée devant la population. Et devant la population, la majorité avait donné un programme suivant lequel le programme a été accepté pour les uns et les autres contestés. Mais c'est qu'il est vrai qu'il y a un programme que la majorité va chapeauter pendant 5 ans. Il y a les recommandations des concertations qui arrivent. Alors maintenant, il faut chercher à savoir, lorsque on prend les recommandations qui heurtent contre le programme de la majorité pour lequel ils ont été mis en place, ça va créer un problème. Et lorsque on va appliquer totalement les recommandations de la concertation, c'est que la majorité n'aura plus les moyens d'appliquer son programme. Ce qui va faire, qui va provoquer une sorte de risque en 2016, la majorité de dire non, je n'ai pas géré mon programme seul, nous avons géré les programmes communément, alors il faut que le mandat ici ne soit borné. On risque d'arriver sur ce genre de choses. Mais moi, ce que j'aimerais proposer, qu'on prenne ces recommandations, qu'on les donne à l'équipe qui gère la République, donc la majorité. Et la commission de suivi va surveiller le gouvernement en place par rapport à la mise en œuvre de ces recommandations. Au lieu de créer encore un gouvernement d'union nationale qui risque de créer un problème avec les programmes déjà tracés de la majorité. Donc ce sont des réflexions qui sont nobles, qui peuvent être ponctuelles à chaque temps. Dès qu'il y a quelque chose, on se concerte, on donne au gouvernement de la majorité qui est en place. Ceci, on peut le faire aussi si en 2016, alternance il y aura. On peut toujours faire des concertations. Les résolutions, on peut toujours donner au gouvernement qui sera là pour qu'il applique, au lieu de chercher encore, de briser le rythme qui a déjà été pris. Nous allons encore reculer. Donc pour moi, les recommandations peuvent déjà être appliquées, mais pas selon un gouvernement d'union nationale, mais selon le gouvernement qui est en place, qui doit prendre ses responsabilités. Et nous amenons vers l'autre rive
Simon, mais je venais de dire tout à l'heure à Omar, il y a quand même des signaux forts qui annoncent déjà la mise en œuvre de la mise en œuvre effective de ces recommandations, notamment le vote et la promulgation de la loi d'amnistie, l'installation de la Cour de cassation et puis au fait l'approbation du chronogramme des activités de la CENI. Tout cela, c'est quand même des signaux forts.
Oui, voilà, ce sont des signaux forts. Mais le problème, c'est quoi? Nous avons beaucoup de lois qui ont été promulguées depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui. Nous vivons les promulgations des promulgations. Mais sur terrain, nombre de ces lois sont rejetées au calas des Grecs. Jusqu'à aujourd'hui, on continue à créer des lois, on continue à les promulguer. Mais rien ne se fait par rapport à ces lois. Et puis, aucune décision n'est prise par rapport à la non-application. Mais pour la CENI, faut en parler.
Oui, Simon.
Vous savez, le président de la Commission nationale électorale, le président, M. Labbé Malumalu, il le sait parce qu'il est professeur de philosophie. On dit ceci en philosophie. Lorsque les prémices sont fausses, c'est que la conclusion sera aussi fausse. C'est pourquoi on dit à une mauvaise question, faut une mauvaise réponse. Déjà la mise en place ou l'acceptation du président de la CENI a été escamotée, donc ce n'était pas vraiment clair d'une manière transparente qu'on l'a faite parce que l'Église catholique avait présenté laïc devrait être là-bas, mais lui est venu de sa manière. Ça fait déjà un problème. Et la concertation nationale peut trouver des mesures,
Qu'on peut donner. C'était pratiquement le sujet qu'on avait abordé hier. Je crois qu'on va pas, on va plus revenir en arrière, mais j'avais juste une question là de précision à vous poser. Ben bon, de toute façon, là on s'entend pas et puis vous n'êtes plus en ligne parce que au début, on parlait de 679 recommandations. Aujourd'hui, avec le Comité national de suivi des recommandations des concertations nationales, on a publié un tableau reprenant pratiquement le 100 recommandations prioritaires. Alors, c'est au fait d'autres recommandations qui ont été laissées. Est-ce que ça posera des problèmes? En quoi elles ne sont pas prioritaires? Voilà, donc autant de questions, mais bon, nous aurons peut-être des précisions avec notre invité tout à l'heure, Monsieur Thomas Loaka, qui au fait a accepté d'orienter les préoccupations des uns et des autres. Merci beaucoup Simon Antilou de l'avoir appelé de Matadi. Nous prenons Bertin qui est à Bukavu. Bertin, bonjour. Bertin, vous êtes avec nous, bonjour. Voilà, le temps que la ligne de Bertin puisse s'améliorer, on va d'abord prendre Arsène qui est dans la même ville. Arsène, vous êtes à Bukavu, bonjour.
Bonjour, bonjour Pierrot, bonjour à tous les auditeurs de la fréquence de la paix.
Vous avez la parole Arsène.
Merci Pierrot pour la parole, mais j'aimerais aborder presque dans le même sens que mon compatriote Simon qui vient d'intervenir. Et pour ces recommandations de la concertation nationale, c'est bien, certaines sont bonnes pour la population, les autres vraiment, je vois pas l'opportunité de les appliquer. Par exemple, nous pouvons prendre la recommandation telle que le recensement, l'audit du fichier électoral, le suivi des dossiers de certains compatriotes congolais qui sont cloués dans la CPI, ainsi de suite, et la réouverture des chaînes de télévision et ces prêts de l'opposition qui sont fermés. Mais, Pierrot, ce qui est mauvais par ces recommandations, c'est que je suis dit, j'ai la population congolaise presque en général, c'est le gouvernement de cohésion nationale. Parce que le gouvernement, la cohésion ne doit pas venir d'un gouvernement. Je pense que un pouvoir qui est le régime qui est en place doit consommer tout son mandat pour voir comment organiser les élections en 2016. J'ai suivi ce matin sur votre radio un cadre du PPRD qui disait déjà que le président a déjà consommé ne plus que 6 mois dans son mandat. Et pourtant nous savons qu'il est au troisième année. Maintenant, lorsqu'il dit comme ça, et quand on va organiser le gouvernement de cohésion nationale, c'est-à-dire qu'on va encore revenir à zéro. C'est pourquoi, M. Pierrot, certaines recommandations sont bonnes. Les autres, vraiment, je ne vois pas l'opportunité de pouvoir les appliquer.
Merci. Oui, raison pour laquelle. Merci beaucoup. Raison pour laquelle, d'ailleurs, le Comité national de suivi des recommandations propose 100 recommandations prioritaires. Il trouve que c'est vrai, toutes les recommandations doivent s'inscrire dans la durée, mais il faut commencer quelque part pour ne fût-ce que parer au plus pressé. Voilà, donc c'est dans ce sens-là. Merci beaucoup, Arsène, d'avoir appelé de Bukavu. Nous revenons à Kinshasa ici avec Richard. Docteur Richard, bonjour.
Bonjour, J.R. Bonjour. Invité, bonjour à tous ceux qui suivent.
Vous avez la parole, Dr. Richard.
Merci pour la parole. 600 recommandations pour une concertation nationale, je crois que c'est un aveu d'échec. Pourquoi ? S'il faut mettre en pratique une recommandation par an, ça fera 600 ans. S'il faut 10 recommandations par an, 60 ans. On va utiliser combien de recommandations par an? Si c'est, je ne sais pas, 100, ça sera 6 ans. Est-ce que c'est réalisable? C'est ça le problème. Ça, c'est un. Deuxièmement, je vois à peu près l'image de la concertation de Mobutu. Je vois à peu près l'image de la conférence nationale souveraine. Ça, c'est quoi? C'est lorsque il n'y a plus d'inspiration, il n'y a plus de motivation. La machine est bloquée, on rentre dans ce genre d'histoire. Qu'on nous dise clairement quel était le problème. Quel est le problème qui a poussé à la concertation. Qu'on nous dise clairement. J'ai fait le tour du Congo il n'y a pas longtemps.
Docteur Richard, on va peut-être des choses qu'on ne veut pas dire.
Concertation nationale avec ses 600 recommandations, c'est un aveu d'échec, c'est un aveu de démission.
Oui, docteur Richard. S'il vous plaît, docteur Richard.
Montrez mon bouton, dit, je suis démissionnaire.
Oui, docteur Richard.
Il n'y avait plus rien.
Docteur Richard. Dit,
qu'est-ce qu'il y a maintenant? Qu'est-ce qu'il y a?
Voilà, docteur, on va évoluer, rester en ligne, docteur Richard.
Allez-y.
Voilà, donc je disais tout à l'heure, c'est vrai, vous avez fait des calculs. Je ne suis pas fort en calcul comme vous, hein, parce que vous avez parlé s'il faut mettre en œuvre chacune des recommandations. En tout cas, sur les 600, ça nous prendra 600 ans. Donc chaque année, une recommandation. Mais du moins, laissez-nous vous informer que au niveau des délais d'exécution, par exemple, par rapport à, disons, aux informations en notre possession, sur les tableaux de 100 recommandations prioritaires proposées par le comité national. En ce qui concerne les délais d'exécution, en tout cas la plupart des recommandations, les délais est d'une année. Donc les recommandations prioritaires doivent être exécutées cette année 2014. Donc je crois que ça ne va pas nous amener dans les calculs que vous venez de faire. Alors
oui.
Voilà. Deuxièmement, quels commentaires faites-vous par exemple quand on retient comme priorité dans les recommandations en matière d'économie, secteur productif et finances publiques le souci de garantir aux nationaux la sous-traitance de tous les secteurs productifs contrôlés par les entreprises étrangères et assurer de façon volontariste la préférence aux nationaux dans les secteurs stratégiques que sont les mines, les hydrocarbures, les forêts, les télécommunications, les banques, les assurances ainsi que les secteurs agroalimentaires. Quel commentaire avez-vous?
Oui, je dis, on ne peut pas donner ces choses aux pauvres. Les arriérés des fonctionnaires qu'on veut donner. Moi, je veux devenir aussi homme d'affaires. Mais n'est pas à 12 ans d'arriérer à mes remèdes. Il va commencer par où? Si nous considérons même le discours du président revenu chef de l'État, il a dit, payez les arriérés. Ont-ils déjà commencé à les payer? Je suis seul. Il y a des confrères qui ont 7 ans, d'autres 5 ans, etc. Je veux devenir homme d'affaires. Bientôt, je serai à la retraite. Qu'est-ce qu'on va commencer à me donner? On va commencer par quoi? Est-ce qu'on a déjà payé les arriérés à l'AMIBA? Les arriérés à la SNCZ? On a payé les arriérés, je ne sais pas, les écamines, etc. Est-ce qu'on a amélioré, par exemple, les conditions de l'eau? Nous attendons l'eau de pluie pour être satisfaits, avoir de l'eau à boire, de l'eau pour se laver, etc. On va commencer par quoi? Je veux devenir homme d'affaires, mais les arriérés sont-ils payés? Est-ce que la banque donne des crédits à celui qui est main vide? C'est encore le problème.
Docteur Richard,
je disais. La poudre dans les yeux.
Oui, docteur Richard, je disais tout à l'heure.
Oui.
Je disais tout à l'heure que parmi les 100 recommandations prioritaires, c'est vrai qu'en matière d'économie, secteur productif, il est vrai parce que je venais de parler de la sous-traitance, mais il faut noter également que la question sur l'amélioration des traitements des agents et fonctionnaires de l'État et la définition d'une bonne politique salariale à l'application de la législation est retenue, en tout cas, est retenue comme recommandation également prioritaire.
Oui, si on avait ça à cœur pour honorer les femmes qui nous suivent, on n'aurait pas payé les indemnités familiales. On le paye. Les femmes ne se retrouvent pas dans nos salaires, ainsi que nos enfants, ainsi que le logement. On va commencer pour honorer ne plus que la femme. Au moins de la femme ici. Qu'est-ce qu'on a fait par exemple?
Merci beaucoup, docteur Richard. Voilà, vous émettez quelques inquiétudes par rapport à l'exécution ou à la mise en œuvre de ces recommandations. Nous allons prendre Bertin, qui est à Bukavu, et Michel Amatadi. Ils vont garder la ligne. Le temps pour nous de vous rappeler, chers auditeurs, vous qui nous rejoignez, composez carrément le 081-890-6315 pour les appels en direct. Et vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook.
Parole aux auditeurs.
Nous avons dans ces studios Thomas Loaka, acteur politique, et également il a eu à diriger la thématique conflit communautaire, réconciliation et paix, je crois.
Tout à fait.
Voilà. Alors à ce jour, nous vous recevons comme coordonnateur de cette thématique et aussi membre de comité de suivi des recommandations. Nous avons quitté 679. En tout cas, si mes calculs sont bons, 679 recommandations. Et aujourd'hui, les comités proposent 100 recommandations. Quelles sont les motivations?
Merci beaucoup. Je salue tous nos auditeurs et puis je présente mes excuses pour le léger retard avec lequel je suis arrivé dans ce studio. Il est apparu évident que on ne peut pas appliquer toutes les recommandations à la fois. J'ai suivi l'un de nos auditeurs qui parle de l'application d'une recommandation par an, ça nous prendra 60 ans. Non, ce n'est pas ça. Il y a des recommandations qui sont assez simples à faire, qui ne prendraient même pas une année. Par exemple, installer la Cour constitutionnelle. C'est quelque chose qui peut aller assez vite. Et autre chose, voter, promulguer la loi d'amnistie, c'est fait, ça n'a pas pris une année. Donc, on a considéré au sein du comité national de suivi des recommandations nationales qu'il faut faire une sélection de ces recommandations pour pouvoir donner au chef de l'État qui puisse au moins accélérer la mise en place de ces recommandations.
Oui, ben, le problème aujourd'hui, nous prenons par exemple des signaux forts qui ont été déjà annoncés pour annoncer la mise en œuvre de ces recommandations. On prend entre autres la mise en place les votes et la promulgation de la loi d'amnistie. Oui. Mais aujourd'hui, les mesures d'application, les mesures d'accompagnement, les mesures d'encadrement ne suivent pas.
Oui, c'est vrai qu'il y a, par rapport à la loi d'amnistie, il y a un léger retard du côté du gouvernement, mais il faudrait peut-être poser la question à la ministre de la Justice. Et nous, les comités de suivi, notre responsabilité à nous, c'est de prendre les recommandations que nous avons considérées comme pertinentes et urgentes et les mettre à la disposition du chef de l'État. Et vous verrez, je pense qu'aussi c'est là d'où vient le problème d'incompréhension entre nous et certains auditeurs. Les auditeurs où les Congolais ne disposent pas de ces tableaux de 100 recommandations ou de toutes les recommandations. Alors parfois, les gens s'imaginent que parfois c'est des choses compliquées. Lorsque vous voyez les tableaux de 100 recommandations, à chaque fois il y a les mesures à prendre, c'est-à-dire la recommandation elle-même, la deuxième colonne, l'institution concernée. Vous allez voir par exemple mise en place du gouvernement de cohésion nationale, institution concernée, président de la République, délai d'exécution, pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Et promulgation de la loi d'amnistie, institution concernée, gouvernement et parlement, et délai d'exécution, session ordinaire du mois de mars 2014, et ainsi de suite. Donc, nous avons fait un chronogramme pour pouvoir justement faire le suivi de ces recommandations.
Justement, parce que vous avez parlé de ça, le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État, on en parle. Les auditeurs, en tout cas, aimeraient avoir un cœur net. Au fait, en réalité, c'est quoi ça peut prendre combien de temps? Parce que les délais d'exécution, pouvoir discrétionnaire du chef de l'État, ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 12 ans.
Non, je ne sais pas. N'étant pas membre de la majorité ni proche collaborateur du chef de l'État, je ne peux pas répondre à cette question.
Donc, il peut ou ne pas, décider de la sortie, de la mise en place du gouvernement.
Non, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça à vivoter dans cette situation qui a pris déjà 5 mois. On le fait ou on ne le fait pas, mais l'opinion va être fixée. Je ne pense pas que je peux répondre à la question de la durée.
J'avais parlé des institutions concernées. Oui. Il y a notamment le gouvernement. De quel gouvernement? Le gouvernement en place ou le gouvernement de cohésion nationale?
Par rapport à l'engagement du chef de l'État qui avait dit lors de la clôture de ces concertations qu'il y aura un gouvernement de cohésion nationale, il semble logique que les recommandations qui ont été adoptées dans le cadre du renforcement de la cohésion nationale soient appliquées par le gouvernement de cohésion nationale.
Voilà, on va revenir encore à vous, Thomas Louaka, le temps de prendre Bertin qui est à Bukavu et Michel Amatadi. Bertin, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à l'invité de l'émission. Moi c'est Bertin Mungombe de Swatami, un centre de production vidéo ici à Bukavu, je vous parle. Je pense que nous devons interroger l'histoire de la République démocratique du Congo depuis son indépendance jusqu'à aujourd'hui. Combien de réunions y a existé? Combien de concertations avec Mobutu? Nous sommes partis même jusqu'à la conférence nationale souveraine. Qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé dans ce pays. Je vais partir directement de la République démocratique du Congo. Je vais vous dire, monsieur le journaliste, et aussi l'invité, que tout ce que nous sommes en train de faire là, c'est une question pour la majorité de montrer qu'on n'aura pas des élections à 2016. Pourquoi? Aujourd'hui, on parle des gouvernements d'union nationale ou de cohésion nationale. Ce gouvernement-là tarde à venir. Et l'invité vous dit, c'est formidable. De l'État. Donc, le chef de l'État peut dire, après 10 ans, je peux mettre ce gouvernement, et ce gouvernement viendra après 10 ans. Ça, c'est d'abord un. Et deux, s'il y avait la volonté d'appliquer les 100 recommandations prioritaires telles qu'elles définies, on devait commencer par budgétiser. Aujourd'hui, on dit qu'on va mettre la Cour suprême de justice ou la Cour constitutionnelle. Avec quels moyens? Avec quels moyens? Les moyens ne sont pas définis. Le gouvernement d'Union nationale, avec quel type d'hommes? Est-ce que nous n'allons pas revenir avec les mêmes personnes comme au gouvernement des 1-4? Ça crée un problème. Moi, je pense, pour moi, ce qui était important, ce n'est pas chercher à changer des ministres et mettre peut-être des ministres de l'opposition et de la société civile, parce que quand il y a une tête quand il y a une tête qui est malade, c'est tout le corps qui est malade. Moi, je pense qu'il fallait commencer d'abord par changer le système. Changer le système, c'est-à-dire quoi? Changer d'abord la mentalité congolaise. Que les Congolais comprennent que ce pays, on n'aura jamais deux républiques démocratiques du Congo et qu'on ne vive pas sur les dos ou qu'on ne travaille pas seulement pour les ministres et députés. Parce que tout le monde aujourd'hui, l'objectif c'est de devenir ministre, député, il va s'enrichir et puis partir. Je pense, je propose qu'au lieu de prendre les 100 recommandations, qu'on prenne des recommandations qui peuvent être facilement faisables sans demander les moyens, parce que les députés n'ont pas prévu ces moyens-là.
Mais Bertin, nous l'avons dit en début de cette émission, on est parti de 679 recommandations. Le comité national de suivi a retenu, en tout cas prioritairement, 100 recommandations. Je crois que il y a eu des analyses qui ont été faites, des études qui ont été menées pour qu'on en arrive à ces 100 recommandations prioritaires, parce qu'on sait que tout de même, il y a des recommandations qui sont faciles à exécuter.
Mais monsieur Gérard, les 100 recommandations, oui, mais avec quels moyens? Nous avons vu les députés ont voté pour l'année 2014. Est-ce qu'ils ont prévu des moyens pour ces 100 recommandations-là? Ok, on va exécuter ces 100 recommandations. Avec quels moyens? Moi, je vous dis, attendons et vous me donnerez peut-être raison un jour. Il y aura seulement 2 recommandations, 2 ou 3 qui seront exécutées.
Lesquelles?
Le gouvernement de cohésion nationale.
Oui.
La deuxième recommandation, c'est la loi de l'amnistie pour permettre aux gens de M23 d'être dans les gouvernements. Et la troisième recommandation, peut-être,
peut-être marchera avec l'idée de révision de la Constitution aujourd'hui pour le troisième mandat de président de la République, et ça sera le gouvernement.
Voilà, non, je ne pense pas. Ça, c'est votre point de vue, Bertin. Merci beaucoup d'avoir contribué dans cette émission. Parole aux auditeurs. On va prendre Michel, mais je crois que il y a quand même cette préoccupation, avait quand même un caractère aussi direct. Hein. Est-ce que Thomas Louaka, vous pouvez quand même orienter notre auditeur qui venait de parler tout à l'heure?
Oui, parmi les recommandations qu'il a citées, il n'y aura que trois qui seront appliquées. Oui. J'étais peut-être à l'informer que le président de l'Assemblée nationale a annoncé dans son discours d'ouverture qu'il va, il va procéder à l'installation de la Commission nationale des droits de l'homme. Donc c'est l'une des recommandations déjà qui sera appliquée. Et peut-être aussi de manière générale, parce que notre frère a parlé du fait que depuis 1960, il y a toujours des réunions dans ces pays et ça n'avance pas. Les réunions en politique sont tout à fait normales. Prenez la République démocratique du Congo comme une entreprise, comme une grande entreprise. Les gouvernements, c'est des comités de gestion. Et puis vous avez les conseils d'administration, et puis vous avez l'Assemblée nationale des actionnaires. Donc il est tout à fait, vous n'allez pas dire que dans notre entreprise, puisqu'on a fait une réunion il y a 5 ans, les conseils d'administration ne doivent plus se réunir. Non, on se réunit quand il y a des problèmes. En fait, c'est justement pour avoir les points de vue des uns et des autres, pour aider les choses à aller de l'avant. Notre gouvernement, qui est le comité de gestion de la République démocratique du Congo, considéré comme une entreprise, a eu besoin, devant les difficultés qu'ils ont rencontrées l'année dernière, vous savez, la guerre du M23, la dislocation de la cohésion nationale dans les pays, on avait beaucoup de problèmes. Donc le chef de l'État a considéré qu'il était important de convoquer l'Assemblée générale des actionnaires ou les représentants des actionnaires, que nous sommes tous les Congolais actionnaires dans cette grande entreprise qu'on appelle la RDC. Donc nous nous sommes réunis, l'Assemblée générale a fait des recommandations au comité de gestion, donc le gouvernement, au conseil d'administration qu'on peut qualifier de l'Assemblée nationale. Il appartiendra maintenant aux uns et aux autres d'appliquer les recommandations de l'Assemblée générale. Voilà la démarche en termes assez simplifiés.
Oui, alors il y a des auditeurs qui, au fait, avaient souhaité, il y a la question de moyens qui revient de la bouche de tous les auditeurs. Il y a aussi cette question de la volonté politique. Parce qu'on dit, tout doit être fait. En tout cas, si on s'en tient au résultat, il faut une certaine volonté politique. Et aujourd'hui, on sait que la majorité a conduit les choses pendant un temps. Et il y a eu des frustrations, certes. Et l'opposition tient aussi à terminer le mandat de la majorité avant qu'on arrive en 2016. Est-ce qu'aujourd'hui, l'échec ou la réussite ne sera pas partagé entre la majorité et l'opposition dans les jours à venir?
C'est l'inquiétude. Il faut faire bien la part des choses, qu'il n'y ait pas de confusion. Venir contribuer en termes intellectuels aux concertations nationales ne veut pas dire que les membres de l'Assemblée générale des actionnaires deviennent les membres du comité de gestion. Ah, il faut bien distinguer les choses.
Parce qu'il y a certains opposants qui deviendront des ministres dans le gouvernement de cohésion nationale.
Oui, mais c'est ce qu'on dit. Ce n'est pas encore fait. Aujourd'hui, il y a une majorité claire définie qui s'appelle MP, qui gère la République. Maintenant, nous, MLC et les autres partis politiques de l'opposition, nous sommes venus comme des républicains apporter notre contribution dans l'état des lieux, faire de l'état des lieux de la situation de notre pays. Pourquoi ça ne va pas? Et nous avons dit, ça ne va pas parce que A, B, C, D. Et on a conclu par des recommandations. Nous pensons que, et c'est là, il faut bien les noter, toutes les recommandations ont été adoptées par consensus. Il n'y a pas eu vote. On ne peut pas dire que ça, c'est la recommandation de l'opposition, ça, c'est la recommandation de la majorité. Donc, plus de 600 recommandations adoptées par consensus de la classe politique congolaise et de la société civile, et même des membres des institutions. Donc, nous nous sommes mis d'accord en disant qu'il faut corriger les tirs dorénavant pour que les choses aillent de l'avant, pour qu'on puisse accélérer le développement de notre pays, pour qu'on puisse consolider la paix dans notre pays et la sécurité. Voici ce qu'il faut faire. Ce sont les recommandations des Congolais. Maintenant, il appartient aux institutions concernées de pouvoir les appliquer. Maintenant, il y a un procès d'intention. Oui, mais nous pensons que dans ceux qui vont appliquer demain, il pourrait y avoir des membres de l'opposition. Dans ce cas-là, ça affectera la fin du mandat des chefs de l'État. Vous voyez qu'on est dans la pure spéculation.
Voilà, merci beaucoup Thomas Louaka, honorable honoraire. Nous allons prendre Michel Guetta à Matadi, Jadot à Loubero et François à Bukavu. Michel, vous êtes avec nous à Matadi, bonjour. Michel, vous êtes avec nous?
Ah oui, je suis avec vous.
Vous avez la parole. Votre point de vue, quel regard portez-vous sur l'effectivité de la mise en œuvre de recommandations des concertations nationales?
Ah oui, merci beaucoup. J'allais peut-être dire d'abord directement à l'honorable Thomas Lwanga qu'il ne peut pas donner toute la faute si les choses ne marchaient pas à la majorité. Parce que l'opposition aussi a un rôle à jouer. Elle doit s'exprimer. Quel cas, et surtout que nous avons parlé des choses pour consolider notre nation, je crois qu'il doit y avoir des voix. Nous avons des voix qui sont légales pour s'exprimer, par exemple par des marches. Parce que vous savez que lorsqu'ils ont été ensemble, c'est pour décanter. Parce qu'ils ont, ils ont su que les pays étaient dans la mauvaise direction. Je vais vous donner un des signaux les plus forts de ces assises. Vous savez bien, nous avons bouté l'ennemi hors de la République juste après ces concertations nationales. Donc, si on devait continuer, je crois que ces concertations-là devaient nous apporter un plus. Mais le mal, c'est quoi dans nos dirigeants? C'est le manque de la parole donnée. Parce que moi, je veux dire, l'autre fois, je vous ai dit, au cours d'une de vos émissions, j'ai dit, je ne suis pas de ceux qui acclament les discours. On ne doit pas se mettre tous derrière les discours, parce qu'on sait comment nos dirigeants parlent et comment ils agissent. La grande thématique ou la grande conclusion de ces assises était la mise dans notre nation d'un gouvernement de cohésion nationale. Et nous avons vu que le président est passé, il a bien dit dans son discours, dans un bref délai, nous aurons ce gouvernement. Mais lorsque cela n'est pas respecté, moi je crois que ça devient une injure à la République. Pourquoi? Parce que ces assises-là ont consommé l'argent de l'État congolais. Ça a servi. Nous avons payé indirectement pour que ces assises aient lieu.
On s'est tiré.
Mais aujourd'hui, ne pas mettre en exécution ce qui était décidé là, moi je comprends bien, il faut qu'on se le dise. Parce que lorsque vous parlez, un dirigeant, lorsqu'il parle, nous ne devons pas être mêlés dans des mensonges. Non, on doit parler. Lorsque vous parlez, vous devez faire en sorte que ce que vous avez parlé là, il puisse avoir des faits. Et je veux dire autrement. Vous savez, avec la concertation nationale, ça peut même assainir nos précédents. Parce que c'est l'une des recommandations de ces concertations. Une fois que vous bloquez ces recommandations, nous aurons une famille amère. Voilà pourquoi le temps est là, pour que nous puissions mettre en place cette structure qui va venir, même pas mettre la propriété dans tous les domaines, mais soigner quand même quelques portes pour que la République se retrouve. Parce que maintenant, je vous dis que nous serons bloqués quelque part. Aujourd'hui, vous savez, lorsque
rapidement, Michel.
Nous avons maintenant une forme d'opposition. Il y a une opposition qui va... Parce qu'elle a participé dans ces assises.
Une opposition républicaine et une opposition radicale, je ne sais pas
de terme que... Qui ne pas aller dans ces assises et qui attendent, ça devient une opposition qui combat l'opposition. Donc, c'est du flou. Moi, je crois que nous devons nous mettre ensemble.
Tout à fait. Donc, il faut que...
Même dans des voies qui sont pacifiques, s'il y a des marches qui doivent être organisées, on doit les faire. C'est ça, entendre la voix de l'opposition. Ce n'est pas seulement venir devant les micros... Parler,
non, merci beaucoup, merci beaucoup Michel, merci beaucoup Michel. Michel, merci beaucoup d'avoir appelé de Matadi. Il est temps qu'on accorde également la parole à Jadot de Lubero et François de Bukavu. Jadot, bonjour.
Bonjour, GR Lungembo. Bonjour tous les auditeurs de la radio Okapi. Mais ici à Lubero, nous suivons Radio Okapi. Mais j'ai été à Butembo, permettez une parenthèse. La radio Okapi ne se fait plus écouter en FM. Et il y a une inquiétude, il y a beaucoup de spéculations. Vous savez que c'est le seul média à Butembo qui informe et qui
voilà, je crois qu'il n'y a pas spéculé, Jadot.
Peut-être demander aux techniciens.
Oui, il n'y a pas spéculé. Il y a juste des petits soucis techniques. Je crois que notre équipe technique est en train de travailler là-dessus. Hein. Bientôt, peut-être, ils vous réserveront une suite. Bon, parce que au niveau de programme, on n'en sait pas réellement de quoi il s'agit. Dans un bref délai, on vous trouvera la solution, Jadot. Votre point de vue par rapport à la thématique.
Voilà, merci beaucoup. En fait, par rapport à la thématique du jour, les concertations nationales, c'était bien. et tout ce qu'on a fait comme recommandation, même si les uns et les autres estiment que c'est bon de réunir les membres d'une entreprise régulièrement, faudrait-il savoir passer à l'évaluation aussi de savoir qu'est-ce que l'on a fait, qu'est-ce que l'on n'a pas pu faire, pour quelles raisons. Alors si les consultations nationales ont eu lieu, je ne pense pas que ça soit différent de ce qui s'était passé à San City, à Pretoria, on a signé l'accord global et inclusif. Mais ce qui nous inquiète ici chez nous à l'Est, c'est que on ne semble pas comprendre si réellement, après les consultations nationales, s'il y a eu changement. Vous savez, par exemple, on a parlé des situations économiques du pays. Mais aujourd'hui, ici à l'Est, maintenant, notre économie est en train de s'engouffrer. Il y a beaucoup de gens qui sont arrêtés à la frontière, une surtaxation, alors que nous étions en train de demander une province sinistrée qu'on nous allège les taxes. Mais ici à l'Est, à Butembo, c'est maintenant des surtaxations. Et ça met le peuple dans une confusion. Parlons par exemple du gouvernement de cohésion nationale. Et je ne passe pas, je suis en train de lire la Constitution, l'article
78. Oui, j'adore.
On dit que...
Oui, allez-y. Vous évoquez l'article.
Je suis en train de dire, l'article 78 ne permet pas à ce que dans ce pays, nous puissions comprendre un gouvernement de cohésion nationale. Peut-être parlerons d'un remaniement et d'une ouverture par rapport à la majorité présidentielle qui gère, parce que j'ai vu la charte constitutive même de la MP. On dit tous les acteurs ou les opérateurs politiques peuvent embrasser à n'importe quelle minute la majorité présidentielle à la seule condition que si vous êtes une plateforme politique, il faut avoir au minimum 5 députés. Et que donc, s'il y aura un gouvernement de cohésion nationale qui va sortir, moi je pense qu'il y aura d'autres membres qui seront venus de l'opposition pour aller vers la majorité qui va gouverner après que ce gouvernement soit sorti. Mais parler de l'opposition qui aura entré dans le gouvernement, je pense qu'à ce niveau-là, on aura à suspendre la constitution actuelle parce qu'elle ne garantit pas dans les prescrits même de la loi les formes où l'opposition peut appartenir à une majorité et gouverner ensemble.
Voilà, parce que vous avez,
que les uns et les autres doivent comprendre que peut-être il y aura une main tendue vers certains opérateurs politiques qui vont rejoindre la majorité actuelle. Et pour tout ce qui concerne le reste de la vie politique actuelle, mon cher GR, ici, on se pose beaucoup de questions relative à ce gouvernement de cohésion nationale.
Voilà. Alors nous retenons par rapport à tout ce que vous avez dit. Vous avez des soucis du développement de l'Est aujourd'hui qui a été déclaré par le gouverneur du Nord Kivu comme province sinistrée. Alors il faut noter que parmi les 100 recommandations prioritaires, il y a celle de redynamiser le programme Starec et l'étendre à l'ensemble du territoire national, au fait, pour chercher toujours le bien-être des peuples congolais. Merci beaucoup, Jado. Réaction, Monsieur Thomas Loaka.
Merci beaucoup. Mais j'ai remarqué la première des choses. Vous savez, avant la tenue des concertations nationales, nous avons subi une très forte pression de la part de certains partis politiques de l'opposition et même de nos amis de la diaspora. Personnellement, j'ai été interpellé au téléphone, même des gens qui m'ont piégé m'ont appelé en enregistrant ça à mon insu. Ils ont mis ça sur Internet pour nous mettre la pression de ne pas aller aux concertations nationales. De ne pas aller. Les gens étaient opposés. Nous sommes allés parce que nous avons considéré qu'il s'agissait du Congo. On va parler de notre pays. Nous sommes allés là-bas. Aujourd'hui, je suis heureux de constater qu'aucun des intervenants ne remet en cause la tenue des concertations nationales. Aujourd'hui, on considère que c'était une très bonne chose. Ça nous ferait plaisir si l'un des auditeurs pouvait nous remercier d'avoir tenu bon et d'aller aux concertations nationales. Deuxième problème qui se pose aujourd'hui, c'est maintenant les recommandations, l'application des recommandations. Je crois que c'est la thématique d'aujourd'hui. Les gens n'ont pas confiance. Ils considèrent que les hommes politiques disent beaucoup de choses et ne respectent pas. Mais ce qu'il faut savoir, les recommandations aujourd'hui ont été adressées à des institutions. Une institution qui s'appelle Président de la République, l'institution Assemblée nationale, gouvernement. Il appartiendra à ces institutions s'ils veulent réellement respecter la volonté des délégués congolais des forces vives qui étaient aux concertations nationales pour pouvoir atteindre des résultats. Il se peut aussi que nos amis, certains de nos amis, ne veulent pas atteindre ces résultats de cohésion, de paix ou d'autres. À ce moment-là, ça devient une autre chose.
Et quelle sera la part du comité national de suivi pour, au fait, accélérer l'effectivité de la mise en œuvre de ces recommandations?
Mais en fait, les comités nationaux de suivi, c'est comme un aiguillon. Nous sommes là pour justement rappeler aux destinataires de ces recommandations. Et voilà, peut-être c'est quelque chose que je ne devrais pas en parler, mais lors de la dernière réunion du comité national de suivi, et les membres du président ont interpellé les chefs de l'État. Ils disent, monsieur le président, voilà, il y a eu des recommandations. Où est-ce qu'on en est? Le chef de l'État a répondu que je suis conscient.
C'est la question de tous les jours, tout le Congolais.
Il s'est engagé, il dit, j'ai pris un engagement public au niveau du Congrès, devant l'opinion nationale, je vais appliquer. Donc c'est un engagement politique. Il appartient maintenant au chef de l'État d'appliquer cela. On est au niveau maintenant de l'application. On sent qu'il y a quand même une méfiance de la population, un scepticisme de la part de nos auditeurs vis-à-vis aux destinataires de ces recommandations. Mais nous, ce qui nous réjouit, c'est de voir que les recommandations que nous avons adoptées par consensus sont pertinentes. Elles peuvent aider la population congolaise à sortir du boubier où nous nous trouvons.
Voilà, on va prendre le dernier auditeur avant de conclure avec notre invité. Dommage que notre invité d'ailleurs il a présenté des excuses parce qu'il s'est présenté une demi-heure un peu tard. Donc on va prendre François et Maurice, on va leur accorder une minute à chacun et puis on va conclure avec notre invité. François, vous êtes à Bukavu, bonjour.
Oui, c'est François Taden Nkumbo de Bukavu, étudiant faculté de droit à l'IOB, promotion GD.
Alors vous avez une minute, François.
Oui. C'est avec deux aspects, l'aspect politique et l'aspect juridique. Par rapport à l'aspect politique, là on est dans la liste du pouvoir, une fois conquis, une fois vécu les pouvoirs, les vainqueurs, les conquérants, ils cherchent tout à les conserver le plus longtemps que possible. C'est ce qu'a dit Nicolas Machiavel dans la science politique. Par rapport à l'aspect juridique, je pense que notre constitution, qui est une loi fondamentale, ne prévoit dans aucun article qu'on peut créer un gouvernement de la cohésion nationale, nulle part dans la Constitution, M. J.F. Cela traduit que les pouvoirs en place, nos dirigeants en place, peuvent toujours conserver les pouvoirs le plus longtemps que possible. Par rapport à ces deux aspects, je me limite par là. Et que ce qui cause aussi les retards de la mise en œuvre de ce gouvernement, on est en train, les pouvoirs en place sont en train d'attendre tous ces gens qui étaient dans les M23, tous ces criminels qui ont commis des crimes, qui ont violé nos serres, qui ont tué le peuple congolais, qu'ils viennent prendre part dans les fameux gouvernements de la cohésion nationale. Mm-hmm. Cela justifie vraiment ce retard-là. On veut l'intégrer encore. En plus de cela, tout ça se cherchait toujours à dépenser les budgets de l'État pour des dépenses qui sont inutiles. Dans les budgets de l'État, nulle part on ne prévoit pas qu'il y a vraiment une certaine somme qui peut créer un gouvernement de la cohésion nationale.
Voilà.
Ça, je pense
merci beaucoup, François.
Même la mise en œuvre de ce gouvernement.
Voilà, vous êtes un peu sceptique. Merci beaucoup, François. Contrairement à d'autres auditeurs, on va prendre le tout dernier, Maurice, qui est à Kinshasa. Maurice, bonjour. Maurice, vous êtes avec nous?
Ça veut dire ceci.
Oui, vous avez une minute, Maurice.
Oui, oui. En fait, je suis avec vous.
Oui, vous avez une minute.
Je dis, je commence que je suis très heureux de lui dire que cette concertation était de temps inutile et une justification.
Vous sortez entrecoupé, alors on a du mal à vous saisir, Maurice. Est-ce que vous pouvez peut-être bouger un tout petit peu?
Oui, j'ai dit ceci. Hein.
Oui.
Je sais pas. Je sens.
Oui, ça s'améliore un tout petit peu. Hein. Oui, allez-y.
J'ai dit que cette concertation est une perte de temps et un moyen pour justifier encore la lapidation des fonds publics. Alors, nous disons tout au départ les bien fondés de les gens du bien fondé, mais
oui, Maurice, je l'ai dit en début ici, c'est vrai, par rapport aux expériences du passé, tout le monde est devenu sceptique, tout le monde ne croit pas à l'avenir du pays, mais il y a quand même des signaux forts hein, qui annoncent la mise en œuvre effective de ces recommandations, notamment le vote et la promulgation de la loi d'amnistie, l'approbation de chronogrammes des activités de la CENI, l'installation de la Cour de cassation, et tout bientôt, donc comme l'a annoncé. prononcer.
Dommage,
on va quand même accorder la parole à notre invité pour conclure, Maurice. Ce n'est qu'une partie remise, hein. On va revenir à vous parce qu'on est déjà à 56. Il ne reste que 2 minutes. Alors, on va accorder la parole à notre invité. Thomas Louaka, honorable, qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui? Est-ce qu'avant, les concertations nationales est égale à après les concertations nationales, ou on peut encore faire foi à toutes ces recommandations et à tous ces acteurs qui ont travaillé dans le souci de pouvoir relever le niveau du pays?
Normalement, après les concertations, ne devrait pas être égal avant les concertations. Et si vous permettez, en une minute, voici la situation de la RDC. Nous sommes une équipe de basket. Nous sommes menés au score 80 à 10. La RDC est menée au score 80 à 10. Sur le plan sécuritaire, on est en retard, comme vous le savez. Sur le plan du travail, l'emploi, on est en difficulté. Sur le plan social, sur le plan économique, notre pays est en difficulté. Lorsque vous regardez les indicateurs des organisations internationales, la RDC fait partie de la file donc du dernier dans la file des proclamations. Donc nous sommes en difficulté. Le président Joseph Kabila, qui est considéré comme l'entraîneur de cette équipe de basket, a demandé un temps mort, une pause, comme ça on appelle ça basket. Une pause, il dit, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi la RDC n'arrête pas de perdre? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Chacun d'entre nous, nous qui étions dans la tribune, nous sommes descendus autour de l'équipe et les autres compatriotes sont venus, chacun avec son expérience. Il dit, non, moi je considère que le système que notre équipe utilise n'est pas bon, c'est pour ça que nous sommes en train de perdre. Oui, moi je considère que tel joueur ne joue pas bien. Chacun a donné ses idées. Et toutes ces idées qu'on appelle les recommandations ont été adressées au chef de l'État et aux autres animateurs des institutions. Il appartient maintenant à l'entraîneur de l'équipe de basket du Congo, qui est, je rappelle, Emenoscore, de tirer toutes les conséquences des conseils. Ce sont des conseils. Mm-hmm. Des conseils que nous avons mis à sa disposition. S'il veut la réussite de son équipe...
Parce qu'il s'agit là des conseils.
Il peut
ou ne pas prendre en considération.
Mais sur le plan politique, ça a quand même une valeur. Mm-hmm. Ça a quand même une valeur politique très très importante. C'est toute la classe politique qui s'est mise autour de la table, même si juridiquement, il n'y a pas dans notre constitution une disposition qui dit que les recommandations ont telle valeur juridique. Mais sur le plan politique, ça a une très très forte valeur et je ne vois pas le chef de l'État aujourd'hui faire fi de ces recommandations et continuer dans la route où le Congo est en train de perdre.
Thomas Louaka, honorable honoraire, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous rappelons que nous vous avons reçu au titre de membre de comité de suivi des recommandations des concertations nationales. À très bientôt et surtout merci d'avoir fait les déplacements de ces studios pour répondre aux préoccupations des uns et des autres.
Merci beaucoup.
Grâce à Internet, la radio d'aujourd'hui s'écoute aussi quand vous êtes disponible et pas seulement en direct. Radio-Okapi.net, téléchargez et conservez vos émissions préférées. Dialogue entre Congolais, parole aux auditeurs et Okapi Service. Téléchargez l'émission de votre choix. Vous l'écoutez quand vous le souhaitez. Radio-Okapi.net, la radio en différé à votre service.
Allô? 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 Mais, ils ne répondent pas?
Voilà, nous disons également merci à vous tous qui avez suivi religieusement cette émission Parole aux auditeurs. Merci à Hérité Sidiakala qui a assuré sa mise en onde aux côtés de Pierrot et la Meji qui a au fait assuré la réalisation de ce programme coordonné et présenté par J.R. Lungembo sous la supervision de Ben Kabamba. On se retrouve demain pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Okapi.